l'histoire des patriarches, toutes ces problématiques, j'ai pas encore terminé, je vous réponds, mais c'est des parenthèses. Toutes les problématiques d'identité humaine sont reprises dans la perspective de la réussite. Cette équation Caïn-Abel, on la retrouve avec Jacob Ésaü. Mais là, la mère intervient. La mère de Jacob Ésaü, Rivka, intervient lorsqu'elle s'aperçoit qu'Ésaü n'a pas pu être éduqué par Jacob. Vous savez, il y a un parallèle d'identité entre Caïn et Ésaü énorme. Caïn, Chava l'appelle Caïn parce qu'elle dit Kaniti Ish. Caïn, il est canouille, acquis. C'est pourquoi il est réfractaire à la notion de mérite, il faut qu'il se mérite. Je n'ai pas ma vérité, je suis. Esav, nous dit Rachid, Kvarna Asa, il est assouillé. Esav aussi est achevé. Et alors, il est tellement achevé qu'il est poilu, nous dit Midrash, comme un adulte. Okay. Ça veut dire qu'il y a la même problématique qui revient. Et là, ils sont vraiment jumeaux. Pour Caïn et Abel, il y a un sapé chez les Mefarchim. C'est pas dit qu'ils sont nés du même accouchement. Mais en tout cas, ils sont nés de la même conception. Il n'y a pas écrit Vatahar pour Abel. De Vatahar, Caïn va tous être là, les lettres. Et il y avait écrit Bâtard. Ils sont nés de la même conception. Ils sont comme s'ils étaient des jumeaux. Ésaü et Jacob sont des jumeaux. Et voilà que Jacob n'arrive pas à faire que Ésaü soit son frère. C'est lui le frère. C'est Jacob qui est le frère d'Ésaü. Mais il n'arrive pas à faire que Ésaü soit son frère. Alors Rivka intervient. Et elle dit à Jacob, enfuis-toi. Ne me fais pas le coup que tu m'as fait au temps de Caïn et Abel et Chava. C'est un Gilgul de Chava qui revient dans Rivka. Cette fois que la leçon te sert, enfuis-toi, ne reste pas. Parce que si tu restes, tu sais ce qui risque de t'arriver. Et alors, lorsque le peuple d'Israël joue l'histoire de Abel, c'est très dangereux. Israël ne descend pas de Abel, il descend de Chet. Est-ce que c'est clair? Chet est celui qui remplace Abel. Je veux dire le verset. Lorsque Chet est né, un Chavadi, Batikhaï chez mon Chet, qui amra, qui châtli Elohim, zera tahat evel qui a avocat. Dieu m'a stabilisé, châtli, une postérité à la place de Abel, parce que ou que Caïn avait tué. Donc, Chet vient bien en place de Abel, mais c'est un Abel inassassinable. Est-ce que c'est clair? Voilà l'exemple que je voulais donner en réponse. Et parce que ça, c'est tellement proche de notre actualité, surtout israélienne. Dans la conduite vis-à-vis de l'autre, l'autre étant le frère, en le cas c'est le cousin, désormais même. Lorsque la Torah dit comment Caïn a tué Abel, il se leva et il le frappa et le tua. Vayakom, alors le Midrash pose la question, Vayakom, pourquoi il était couché par terre? Il dit oui. Abel était plus fort que Caïn, il l'avait mis à terre. Et Caïn a dit à Abel, mon frère, tu vas me tuer, laisse-moi me lever. Il a laissé se lever et Caïn a tué Abel. Vous avez compris à quoi je fais allusion. Nous avons un ministre de la police qui n'a pas lu le Midrash. En tout cas, pour la finir, Al-Sahar va péter le tirou. En tout cas, pour revenir au sujet que vous avez posé, c'est pas pour rien que la Torah nous a raconté cette première tentative avortée entre les frères. Il y a eu l'équation. Caïn Abel, Abel a échoué. D'où le scandale de la première victime. C'est l'assassin qui reste en vie et c'est la victime qui meurt. Il y a dans le meurtre un scandale épouvantable. Comment? C'est l'assassin qui reste en vie, c'est la victime qui meurt, il y a un problème métaphysique dans le vertige. Que se passe-t-il? Alors dans le cas de l'équation Caïn Abel, c'est clair, Dieu veut savoir ce qui s'est passé en réalité. Le Midrash, il ne va pas sanctionner tout de suite. Le Midrash dit que Dieu va mettre un signe sur le front de Caïn et un signe qui va protéger Caïn. Vous savez à quoi ça ressemble? Dans la civilisation française, par exemple, j'ai fait le rapport parce que la civilisation qui nous semble le plus familier, qui nous est le plus familier. Quand il y a un crime, on est sûr, il y avait flagrant délit, on a attrapé l'assassin avec l'arme. Auprès de la victime. Malgré tout, la police arrive et va mettre Caïn à l'abri dans une maison. Il y a écrit « Liberté, égalité, c'est une prison okay. ». Voilà. La police intervient et va le mettre à l'abri du sursis de ce signe dont parle le Midrash, jusqu'à ce que le jugement se fasse, que le jugement dise qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Est-ce que Caïn était assassin ou est-ce qu'il était justicier? Il s'avère, cette génération après, qu'il était assassin. Comme on le sait, justicier, vous avez compris l'énormité que je suis en train de dire. Il a puni le mauvais gâteau. Eh bien, il s'avère qu'il était assassin. Son descendant, la septième génération, a fabriqué les premières armes. Donc l'ancêtre était bien assassin. Et bien, nous avons en filigrane un paradis des civilisations contemporaines. Vous savez que Rome a été fondée, selon le récit de la mémoire romaine, par le meurtre du frère par le frère. Rémus a tué Romulus, ou l'inverse, je ne sais pas lequel. Et puis alors, à Rome, on félicite l'assassin. Ça fonde la cité. Tandis que dans la Torah, l'assassin va être jugé. Mais tant qu'on n'est pas sûr que c'est vraiment... qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans ce meurtre, homicide il y a eu. Mais est-ce que c'est un assassinat ou par exemple le geste du bourreau qui fait justice? Mais c'est très délicat. Ta question nous mène très loin. Dans un cas, c'est clair. Israël ne descend pas de Havel, Israël descend de Chet. Bien.
Être Chet, c'est s'enfuir alors?
Comment?
Parce que être Chet, c'est s'enfuir.
Pas du tout. Être Havel et échoué, c'est s'enfuir. C'est pas c'est s'enfuir, il faut s'enfuir. Mais en tout cas, il est clair que. Je vais vous dire comment le Midrash court-circuite votre question. L'exil, c'est la conséquence d'un sida final. Lorsque les frères ne s'aiment pas, ils vont mettre en exil. Tout ce que je dis est plein de ce que je ne dis pas. Enfin, vous le percevez. Mais c'est ce que je voulais faire allusion, c'est à cela. C'est à l'irresponsabilité d'un Abel qui se laisserait égorger parce qu'il n'a pas réussi à fraterniser son frère. Vous savez, nous sommes la génération qui a connu l'affrontement de la Shoah et de la guerre contre les Allemands, les SS. Eh bien, et quand on est chez les SS, est-ce qu'on se préoccupe de savoir si il faut encore continuer après 2000 ans à leur enseigner qu'il y aura un projet contre eux-mêmes ou à faire justice? Qu'est-ce que ça veut dire que 2000 ans après, alors qu'on a enseigné, tiendras ton prochain comme toi-même chez Caïn, il faille encore continuer et se laisser égorger comme Abel? C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que si nous devions être jugés sur ce message qu'avait apporté aux nations, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ils l'ont entendu. Enfin, l'Allemagne, c'est pas 2000 ans christianisme qu'elle a eu, c'est 1000 ans. Enfin, 1000 ans, c'est énorme. Pendant 1000 ans, on a enseigné aux Allemands, par curé interposé, mais c'est une parole lui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça n'a pas fonctionné. Alors on continue, ou on s'enfuit. Ou on se laisse évoquer. Enfin, finalement, c'est ça qui est arrivé. Moi je suis pris d'angoisse. Chaque fois que je continue à entendre dans la Gola, et c'est au monde des rabbins, que nous avons un message à porter au Goïm, lequel tu aimeras te marcher comme toi-même. Mais voilà que ça ne marche pas. Alors, on est sur le bord d'une autre question. Peut-être que Caïn est inéducable. Peut-être que ce n'est pas la faute de Abel, peut-être que Caïn est inéducable, mais on est renvoyé au problème précédent. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Caïn? Vous savez, il y a un optimisme juif énorme. Voilà comment ça fonctionne. Beaucoup de romanciers juifs ont écrit. Oui, c'est vrai, ça a toujours échoué, mais la prochaine fois, ça va réussir. Ça va pas être comme ça. Et alors, on cherche quelle concession il faut faire avant la concession perpétuelle. voilà que je dirais, je ne sais pas si je dois le faire, mais je le fais quand même. Cette semaine, j'ai assisté à une cérémonie à Yad Vashem. Et puis, je ne donnerai pas de nom, mais un rabbin, nous n'avons pas le droit, il parlait français, nous n'avons pas le droit de nous poser des questions au sujet de la Shoah. Parce que nous n'avons pas les moyens de savoir quels sont les desseins du créateur. Pas exactement les mêmes termes, mais c'est un peu. Et puis, dans la phrase qui suit, l'exhorte les fidèles présents à bien comprendre ça, qu'il fallait passer par là pour recevoir le cadeau de l'État d'Israël. D'un rabbin qui n'est pas Israël. Et vous voyez, il y a là des choses extrêmement révélatrices. Penser que ça pourrait être le prix à payer pour l'État d'Israël, ce qui s'est passé chez Caïn, ça montre que nous n'avons vraiment pas étudié ces choses-là comme la Torah les enseigne. Si c'était ça le prix à payer, on aurait pu attendre 6 millions d'éternité. Voilà, imaginez un appel qui serait prêt à être égorgé par Caïn, et puis en espérant avoir un jour l'État d'Israël. Vous voyez comment l'histoire juive a été vécue. Bon, je referme la parenthèse. Est-ce qu'il y a encore une question sur ce qui s'est passé ? Jusque-là ? Oui. Parlez plus fort, hein, parce qu'il n'a pas encore parlé le fort. Parlez fort.
En quoi Israël était offert de prémices pour qu'il puisse recevoir la Torah ?
Ah, très bien. C'est dans son identité. Et vous avez dû remarquer, vous avez entendu la question. En quoi Israël était offreur de prémices, tu dis, ou porteur de l'offrande des prémices, pour qu'il puisse recevoir la Torah. Vous avez dû remarquer qu'avant le matin de Torah, il y a eu un test. Qui est l'aîné ? Qui est le véritable premier-né ? Celui qui mérite d'être le premier-né. Et ce n'est que lorsque il se dévoile que béni Bechori Israël, que d'une part, a posteriori, on sait que Jacob était l'aîné et pas Esaü, et que Israël devient le véritable premier. Voilà, la rédemption, j'emploie un mot chrétien, mais enfin je parle français, le tikkun de la faute de Caïn, c'est Joseph qui va la faire, qui va le faire. En réalité, ce tikkun se fait à différents niveaux, d'après la Kabbalah. Shivataim Yukam Caïn, le même de Yukam, fait allusion au Mitzri, que Moïse a tué, le Kouf à Korach, et le Yud à Yitro. Mais il y a, si vous voulez, ce qui se cherche, c'est un premier-né capable d'aimer ses frères. Le premier où ça éclate, c'est Joseph. Et c'est pourquoi on a l'habitude, je dis ça à Yoshua, on a l'habitude de désigner Joseph comme étant celui qui a fait le tikkun de la faute de Caïn. Voilà un premier-né qui aime ses frères. L'histoire peut commencer. L'histoire de la rédemption du monde peut commencer. Et elle commence. Effectivement, à ce moment-là, le livre de la Genèse s'arrête, l'histoire d'Israël commence, lorsque Joseph a fait la preuve que le premier-né peut aimer ses frères. Qui est le premier-né qui peut aimer ses frères? C'est le Kohen. Le Kohen et le Bechor ont la même fonction. Le Kohen, c'est ce Bechor qui s'occupe de ses frères. Vous avez dû remarquer cela, la recherche dans toute l'histoire d'Israël, c'est celui qui cherche ses frères. Alors c'est Joseph. Et Tachaï Anochim et Bakesh, c'est Moïse, Bayetse et Lecha. Dieu fait passer un test dans l'histoire d'Israël. Qui est capable d'être berger? Qui est capable d'être celui qui s'occupe du frère et des troupeaux du frère? Et finalement, c'est lui le véritable premier-né. Alors, Béni Bechori Israël, d'où rendez-vous aussi. Je ne sais pas s'il était suffisamment clair. Je citerai un enseignement encore du chemin qui dit ceci. Le véritable premier-né, c'est celui qui sait qu'il y a quelqu'un avant lui. Le terme de Bechor, c'est formé par les 3 lettres qui sont les 2e lettres dans la série de l'alphabet. B, les unités, K, les dizaines, et Resh, les centaines. Bechor, il est en 2e position, il reconnaît qu'il y en a un avant lui, alors c'est lui l'aîné. Je ne sais pas si c'est clair. Il y a un entrecroisement entre l'aîné et le puiné qui dévoile qui est le véritable aîné. Et effectivement, lorsque Jacob fait la preuve qu'il est capable de cette fraternité, alors la Torah lui est donnée. Et Jacob fait cette preuve avec Joseph. Il faut dire que tous les autres premiers-nés de Jacob, les autres, il y en a 4. Mais en tout cas, je pense surtout à Réhouven, on fait déjà cette preuve. Mais c'est surtout Joseph qui va la faire. Joseph les a reconnus alors qu'il ne l'avait pas encore reconnu. ויכר את אחיו, והם לא הגיעו. זה כל הדבר הזה, הפרודו דינו לראובן. כשהוא סבלי ראובן, הוא עושה את הנדרה דן לפשט, ראובן, רגרדי זה תפיס. אני חושב למדרש והבוקו כנורך, En l'air le nom de Réhouven, elle veut dire Réhou m'appelle Béni et Ben Hami. Regardez la différence qu'il y a entre mon fils et le fils de mon beau-père. Qui était le fils du beau-père de Rivka? C'est bien ça?
Léa.
C'est Léa qui dit ça. C'est pas Rivka. Le fils du beau-père de Léa, c'est Ésaü. Elle dit, regardez la différence entre Réhouven et Ève. Et cette différence va se dévoiler dans l'histoire de Réhouven. C'est-à-dire que le roi Hakodesh lui aperçoit que Réhouven est un premier-né qui aimera ses frères. C'est Réhouven qui sauve Joseph de la fosse. Et c'est Judas ensuite qui finit de le sauver. C'est Réhouven qui le protège. Et ça veut dire que les enfants de Jacob ont cette capacité du frère qui aime le frère. Ils sont en épreuve de cela jusqu'à que ça réussisse. Et il y a eu une tension, un procès entre Joseph et ses frères. Joseph était condamné à mort, à juste titre, mais finalement, il est protégé, il est condamné à sa vocation, et en fin de compte, c'est lui qui donne la preuve de qu'est-ce que c'est que le premier-né qui aime ses frères, c'est Joseph. Il fait le tikkun de la faute de Caïn. L'exil a commencé avec Caïn et s'achève avec Joseph. Et l'exil, c'est la sanction. Du manque d'amour entre les frères. À quelle question je répondais là?
Pourquoi Israël est-il?
Oui, alors j'ai ajouté un autre enseignement. C'était la deuxième, la question ici, c'est une question après. C'est est-ce qu'il faut toujours s'enfuir? Alors, c'était avant. Ouais. Bon, j'ai la réponse. Mais je reviens dessus. Et que, comme je le disais tout à l'heure, lorsque Rivka intervient entre Jacob et Ésaü, elle dit à Jacob, enfuis-toi, je sais qu'il veut te tuer, enfuis-toi. Eh bien, le bilan, je répète, ça veut dire que tu n'as pas réussi à le fraterniser, alors tu restes que des éventualités, ou bien il te tuera, ou bien tu t'enfuis. C'est pourquoi j'insiste. Il faut vraiment crier au secours. Quand on entend ces discours, nous avons une mission chez Caïn. Après tout ce qui s'est passé, ça suffit. Voilà. Lorsque Joseph est né, qu'est-ce qu'a dit Rachel? Yosef Hachem Li Ben Acher. C'est-à-dire que Joseph est nommé du souhait que Benjamin puisse naître. Yosef Hachébli Benaré, que Dieu m'ajoute un autre fils. Alors, de la même manière qu'avec Léa, Rachel a vu que Joseph serait un premier-né qui aimera ses frères, et donc elle souhaite avoir un fils, il ne sera pas en danger comme Abel chez Caïn. Que Dieu peut me donner Benjamin, il sera protégé. Est-ce que vous voyez comment ça se redit? Alors, le porteur de l'offrande des prémices, le prêtre, c'est la même chose par rapport à Matan Torah. Voilà donc la première partie de notre question. S'il n'y a pas d'autres précisions, je peux avancer. Alors, vous allez prendre la page que nous avons. Attendez, puisque vous êtes nombreux, on va peut-être prendre 5 minutes de détente, 10 minutes, pas plus, que vous puissiez vous dégager un peu, et on recommence la deuxième partie dans 10 minutes. Dont David nous parlera tout à l'heure par rapport à Sukkot, le nom de Simchat Torah, et pas seulement le nom de Simchat Torah, la liturgie de Simchat Torah qui apparemment est une répétition. C'est un peu schématique ce que je dis là, mais pourrait apparaître comme une répétition de Shavuot. En fait, comme vous le savez, en Eretz Israël, c'est le même jour, Shemini Ha'atzeret et Simchat Torah. Alors que dans la Gola, Simchat Torah est le lendemain de Shemini Ha'atzeret, c'est le deuxième jour des Galouyot, où est fêté Simchat Torah, et peut-être qu'il y a une mise en évidence de Simchat Torah de manière un peu plus exclusive dans la Galoute, plus qu'en Eretz Israël, puisque c'est confondu avec Shemnicha Atzeret, mais ce n'est qu'une apparence. Comme vous savez aussi, on a l'habitude en Eretz Israël de faire les Akapot Shniyot en souvenir de ce qui se passait dans la Galoute. Bien, je voudrais introduire très rapidement le sujet, et puis nous étudierons un texte du Maharal qui se trouve dans Tiferet Israël, c'est le chapitre 32, sur un des points de l'analyse que nous allons avoir. La différence qu'il y a entre Shavuot et Shemnicha Atzeret en tant que Simchat Torah pourrait être formulée de différentes manières. Je vais d'abord la formuler sur un point principal, j'attends que tout le monde soit rentré, c'est que lorsque la Torah a été donnée de Sissivam sur le mont Sinaï, elle a été imposée à Israël. Et cela demande à être étudié. Que signifie que la Torah a été imposée à Israël, alors que nous savons d'autre part, d'après le récit, qu'Israël était tout prêt à l'accepter, puisqu'Israël dit « Naase v'nishma » les versets tout à l'heure. Tandis que Simchat Torah est censé être accepté par Israël. D'une certaine manière, on pourrait dire que Matan Torah, c'est le Sissivan, Shavuot, et que Kabbalat Torah, c'est Simchat Torah. Alors je dirais de cette manière. À Shavuot, ont été données les premières tables. Et les premières tables de la Torah ont été données a priori de la faute. Ça veut dire, voici la carte d'identité du tzaddik selon la Torah. Et s'il y a faute, on a perdu cette identité. Tandis que, à Simchat Torah, la Torah va être reçue, les deuxièmes tables, compte tenu de l'éventualité de la faute. Ça veut dire, même ceux qui étaient dans le cas d'avoir été en faute, d'avoir été en porte-à-faux, porte-à-porte en manque vis-à-vis du niveau d'identité que donnent les deux tables de la loi données à Shavuot, ils font quand même partie d'Israël de la Torah. Donc au fond, c'est pour la Tchouva qu'il faudrait essayer de centrer dans cette question. Alors je le ferai d'abord d'un point de vue assez direct de l'analyse du calendrier. Le 6 Sivan, la Torah a été donnée. Ensuite, Moïse est monté 40 jours sur la montagne pour recevoir l'ensemble de la Torah. C'est ce que j'aurais dû dire, les 10 commandements de premier lieu. Et Moïse est monté 40 jours sur la montagne pour recevoir la Torah. Il redescend de la montagne le 17 Tammuz. Pendant ce temps, le peuple était occupé à la faute du veau d'or. En quoi, si c'est cette faute du veau d'or, peut-être nous arriverons à un peu baratifier là. À le toucher dans l'étude, mais ce n'est pas proprement parti le sujet. La faute a eu lieu le 17 Tammuz, 40 jours donc après le 6 Sivan, et les premières tables ont été brisées sur l'initiative de Moïse. Là, il y a là un point important. Que signifie que Moïse a pris l'initiative de supprimer la loi qui avait été donnée à Israël, et que signifie surtout le fait que d'après nos sources, Dieu les félicite. Lorsque Dieu va accepter que de deuxième table seront données, le texte fera allusion aux premières tables de la manière suivante, et à l'Uchot Asher Shibarta. Et il y aura sur la deuxième table ce que j'avais écrit sur les tables que tu avais brisées. Et sur l'Uchot Asher Shibarta, sur les tables que tu avais brisées, le Midrash va dire Yashar Kochacha Shibarta, que tu as bien fait de briser. Je félicite Moïse d'avoir brisé les tables de la Torah. Il faudra qu'on comprenne de quoi il s'agit. Si dans le déroulement de l'analyse, j'oublie cette question en tant qu'appel à moi tout à l'heure, j'espère que dans l'assistance, il y aura une mémoire capable. Et donc, voici ce qui se passe le 17 Tammuz, 40 jours après le 6 Sivan. Puis, Moïse intercède, il remonte sur la montagne pour intercéder pendant 40 jours. Et on arrive au premier Elul, 40 jours après le 17 Tammuz. Et 40 jours après, Les deuxièmes tables sont données et c'est le 10 Tichri. Donc le jour de Kippour commémore lui aussi un événement historique. C'est la première fois que dans l'histoire, au niveau d'un événement historique, on a expérience que la Teshuvah est possible, que le repentir est possible et que le pardon est possible. J'ai insisté parce que pour la pensée naturelle, c'est une impossibilité. La notion de repentir est un chidouche de la Torah. La pensée naturelle ne connaît pas la possibilité de penser l'éventualité du repentir, je dirais brièvement. Pourquoi ? En tout cas, ça nous explique pourquoi les nations du monde, dit le Midrash, ont refusé la Torah. Les nations du monde ont refusé la Torah, pas par perversité biologique, mais parce qu'elles ne possèdent pas la catégorie du repentir, et que par conséquent, accepter la Torah serait se perdre. Nous sommes faillibles. Les chrétiens disent nous sommes pécheurs, en fait nous disons nous sommes pécables, c'est-à-dire capables de fauter, capables est un mot peut-être pas exactement à sa place, mais en tout cas soumis à la tentation de la faute. Notre tare originel, si c'est une tare, c'est peut-être intentionnel qu'il en soit ainsi, c'est d'être libre, c'est pas d'être pécheur. Parce que nous sommes libres, nous risquons de pécher. Et si le repentir n'est pas possible, et si le pardon n'est pas accordé, alors on est perdu. Voilà pourquoi les nations du monde refusent la Torah comme voie du salut. Non pas encore une fois parce qu'elles refusent la Torah pour refuser la Torah, mais parce qu'accepter la Torah serait se perdre. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Je fais allusion d'ailleurs à toute l'argumentation de saint Paul sur le problème de la loi, ce qui me fait penser le plus souvent que c'est une légende de dire que saint Paul était juif, on va le dire de culture, parce qu'il fait une loi, qui n'a rien à voir avec la loi. Je m'en expliquerai tout à l'heure d'ailleurs, dès que l'occasion va se présenter. La problématique est la suivante. Voici la loi. Et si tu fautes, tu es perdu. Ça, c'est la loi donnée a priori de la faute. Non, compte non tenu de l'éventualité de la faute. Et par conséquent, une conscience humaine qui ne posséderait pas la capacité de penser l'éventualité du repentir et du pardon ne peut pas accepter une telle éventualité. Vous savez, ce midrash que je viens de citer, ce midrash énorme, à part en juif, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a d'un côté ce tout petit peuple Israël, qui est un peuple de juste, qui est capable d'accepter la Torah, et de l'autre côté l'humanité entière qui sont des méchants. En fait, c'est beaucoup plus grave que ça. L'humanité entière, semble-t-il, congénitalement, ne peut pas accepter la Torah. Elle ne peut pas accepter la Torah parce que, et c'est ce que saint Paul a formulé, l'accepter c'est se perdre, puisque la première faute on est damné, plus que condamné. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure, saint Paul n'est pas juif. Il ne connaît pas l'éventualité de la Torah, il ne connaît pas tout l'enseignement jusqu'à lui, qu'aucune faute ne résiste à la Torah, quelle qu'elle soit. Si la foi est sincère et réelle, bien entendu. Tout ça parce que aussi, sa mentalité fonctionne à la grecque. Elle fonctionne d'ailleurs à la gréco-romaine. Parce qu'il est à la fois grec et romain. Je le dirai de la manière suivante, à deux niveaux. J'ai beaucoup étudié cela chez un philosophe juif belge de Belgique. Un juif belge, ça me paraît toujours bizarre. Mais c'est pas plus bizarre qu'un juif français, hein, je ne veux pas être raciste. Mais ça a été un grand philosophe, c'était Perelman. Est-ce que quelqu'un a connu ce philosophe ? Bon, c'est un grand philosophe rationaliste de la morale rationnelle, complètement athée, mais très juif, d'autre part, des Belges. je l'ai connu, c'est un homme extrêmement érudit, il faisait très 18e siècle. Et alors, d'un certain point de vue, la notion de repentir est une notion injuste, immorale pour la pensée naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire cela ? Il y a eu une faute, et on va effacer, et on va pardonner, et on va pas punir. Ça choque le sens rationnel de la justice. Est-ce que c'est clair ? La pensée naturelle n'accepte pas la notion de repentir. Mais il y a un grand prophète de la Bible qui l'accepte pas non plus, c'est lequel ? Il y en a. Eh bien, mais d'ailleurs, ça a été utilisé par les évangiles. Eh bien, en tout cas, pour revenir au sujet, il y a une deuxième raison qui me semble encore beaucoup plus forte. Indépendamment de cette sensibilité morale, elle quand même typée, elle dans l'histoire de la philosophie, elle est très socinienne. Mais c'est quand même très particulier, cette mentalité. Ça a l'air d'être un paradoxe de dire que le pardon, c'est immoral. Parce que nous sommes familiers à la morale publique. C'est le fait que, pour que le repentir soit possible, pour que le repentir soit pensable, il faut arriver à penser la réversibilité du temps. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, teshuva ? Ça veut dire la chute. Revenir en arrière, à l'endroit où il y avait eu une déviation, et reprendre le droit chemin. C'est un chemin de magnanimité. Mais pour revenir en arrière, faire ce petit coup de la teshuva, reprendre le droit chemin, il faudrait que le temps soit réversible. Or, le temps est irréversible. C'est la raison pour laquelle la pensée naturelle ne pense pas la teshuva. C'est un chidouche de la Torah. C'est lorsque cette notion de repentir apparaît dans la culture humaine, elle vient d'Israël, elle apparaît comme une folie. Encore une fois, nous sommes conditionnés par cette conscience biblique, par ces intuitions de la conscience biblique, et pour nous, ça nous paraît une évidence que le repentir soit possible. Il faut découvrir, et il faut faire l'effort de découvrir, que pour la pensée naturelle, c'est impensable. Et quoique la science moderne commence un peu à découvrir l'idée que peut-être, à certains niveaux d'être, le temps est réversible. Mais quoi qu'il en soit, dans notre perception empirique de la réalité du monde, nous évoluons, le temps est irréversible. Donc, la notion de repentir fait partie de la pensée magique, des dirons. C'est un chidouche de la Torah. Eh bien, ce que nous avons à découvrir, c'est cela. C'est que le Shavuot, c'est la Torah qui est donnée avant l'éventualité de la faute du repentir. Alors que Simchat Torah, c'est la Torah qui est reçue après l'éventualité de la faute du repentir. Simchat Torah vient après Yom Kippour. Après Yom Kippour, alors que nous avons la preuve que si, quand il nous plaise, il y a faute, mais s'il y a Tshuva, grâce à Dieu, alors les deuxièmes tables sont rendues et on est réhabilité au niveau même des premières tables, certains des maîtres disent plus haut. Mais il faut comprendre quelle est cette différence. Voilà comment je serais de l'étudier avec ce texte du Maharal, c'est que dans Shavuot, la Torah est imposée à Israël, alors que à Simchat Torah, elle est acceptée par Israël. Je ne vais pas prendre plus de temps pour l'introduction au sujet. Nous allons immédiatement aborder la lecture du texte. Lorsqu'on a préparé ce texte à la polycopie, on a été un petit peu pas assez optimiste, il n'y en a pas assez. Alors je demanderai à ceux qui ont des textes de le passer à ceux qui n'en ont pas, de suivre un sur deux. Prenez juste un minute pour faire ça. Je crois que la méthode la plus simple, c'est de lire le plus de textes possible. On va essayer de tout lire. Et de temps en temps, je donnerai, si c'est nécessaire, quelques explications. Alors là, c'est une étude. Vous pouvez m'interrompre si vous avez une question, mais à une condition, c'est que ce soit dans le sujet. Alors voilà ce que dit le Maharal dans le chapitre 32 de Tiferet Israël. Il cite un passage de la Gemara, sur la Gemara de Shabbat. Vaïkatevou, Betarpida, le verset dans Shmot, dans le chapitre 19 de Shmot, dit que le peuple s'est rassemblé au pied de la montagne. Mais l'expression en hébreu peut être lue, ils se sont rassemblés sous la montagne. Vaïkatevou, Betarpida, Amar Abi Abdini, Bahama, Bar Khasia, Melame, Shechafa Ale, Betarachi, Vermare. Cela nous apprend que Dieu a renversé la montagne comme un couvercle de marmite, de la chaudière, et je me suis rendu compte de la chose. Et il leur a dit, va malaï, imatel kabim et la Torah moutal, veila, chantez-vous la traite. Si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon, là sera votre tombe. Rappelez-vous en tout cas que, dans le contexte du chapitre 19, on avait déjà appris que le peuple était prêt à accepter tout ce que Dieu dira, tout ce que Dieu dirait, tout ce que Dieu aura dit. Le mot hébreu que je vais vous citer se traduit de trois manières. Kol Asher Diber Hashem Naas. Tout ce que Dieu dira, aura dit, dirait, Diber Naas. Toujours. À ce moment-là, Dieu dit à Moïse, préparez-vous, je vais me révéler sur la montagne. Et puisque le texte dit qu'ils se sont rassemblés sous la montagne, qu'est-ce qui fait dire au rabbin du Talmud qu'il y a eu contrainte? Il y a eu contrainte absolue. Je veux dire, d'une certaine manière, pour aller plus rapidement, il faut prendre au sérieux cette contrainte. Ce n'est pas une façon de parler du Midrash. Si Dieu se révèle, il y a contrainte absolue. Le fait même que Dieu se révèle empêche la liberté du peuple qui aurait accepté ou refusé. Qu'est-ce que ça veut dire, accepter ou refuser, si Dieu se révèle? Je dirais à la manière de Rabel, devant le roi, l'esclave n'est pas libre. C'est quand le roi se cache que l'esclave croit qu'il est libre. J'ai signalé un problème dans la manière dont je me suis exprimé. Mais quoi qu'il en soit, le seul fait qui est révélation, c'est contrainte. Par conséquent, qu'est-ce que ça signifie que le peuple aurait le mérite d'accepter? C'est ce que dit ce texte. Il y a eu contrainte de par la révélation même. Dieu se révélant, ça veut dire, eh bien, si tu tiens bien, ça ira bien. Si tu ne tiens pas bien, tu disparais. Et comment la rébellion peut exister devant Dieu révélé, devant Dieu caché, on le comprend, et pas devant Dieu révélé. Donc, en plus, la notion même que le peuple aurait un mérite quelconque d'accepter la Torah, c'est pas donné. Quel mérite? Est-ce qu'on a un mérite d'accepter quand c'est Dieu vivant? En se révélant. Voilà ce que je veux mettre en évidence. Il y a bien une contrainte, c'est la contrainte de la révélation elle-même. Je continue le texte. Amar Abraham, Abba Yaakov, Mikan Moda'a Rabba Loraïta. Voilà comment je traduirai. Rabba Yaakov intervient et dit, de là on apprend une grande contestation par rapport à la Torah. De quoi il s'agit? Les commentateurs nous expliquent, autant du jugement, on pourra toujours dire, pourquoi tu me juges d'après une loi que tu m'as imposée par contrainte? Il n'y a pas place au jugement. Je veux dire qu'il y a, place donc pour une sorte de témoignage contre. Amarab, Amaraba, Arabiré, les rabbins internés, malgré cela, Hadar Kibloua Binarzeroj. Le peuple a de nouveau, Hadar, ça veut dire de nouveau, mais ça veut dire surtout, est revenu sur le même problème, Hadar, c'est Hadar, et ils ont accepter autant d'hostilité. Dertil, Kimou, Mikim. Kimou, Machidou, Loukwa, Adkan, Shonamar. Parce que le verset dans le livre des Serbes que les enfants d'Israël en Perse ont réalisé et accepté sur eux la décision de pratiquer pour lui. Or, l'ordre est analogique, il devrait y avoir Kiblou et Kimou, ils ont accepté et réalisé, et bien ils ont réalisé et accepté. Et la camaraderie, donc, ça veut dire qu'ils ont réalisé ce qu'ils avaient accepté déjà. Vous suivez l'ordre? Guillemot avant Kibou. Alors là, nous avons la réponse à notre question déjà. Je schématise un peu pour gagner du temps, vous direz si c'est assez clair. Précisément, le temps aspirus, c'est le temps de l'arrêt de la révélation. La révélation s'arrête en ce temps-là. Ça veut dire qu'il n'y a plus de contrainte de la révélation, et cependant, le peuple continue à accepter la Torah, la preuve, ils acceptent l'air de Bouli. Ça a l'air d'être une bague de Bouli. Quelqu'un va accepter Bouli. Et donc, il faut comprendre pourquoi la Torah Shebaalpé va donner à la Mégla d'Esther la dignité de la Torah elle-même, de la Torah continue. La révélation commence au Sinaï pour les peuples, et le peuple est sous la contrainte de cette révélation. Cette contrainte cesse au temps d'Assyrus. Le fait qu'Israël continue à être fidèle à la Torah, et non seulement ça, accepte l'autorité de la Torah sur la paix après le temps d'Assyrus, montre que Sinaï, c'était bien, de par leur volonté même, ils avaient accepté. Donc la question se rebondit, alors pourquoi la contrainte? Si vraiment on veut démontrer qu'ils l'ont accepté en bonne volonté, pourquoi faut-il mettre en évidence qu'il y a eu contrainte? J'en profite avant d'aller plus loin pour indiquer une remarque qui me semble extrêmement importante. Nous les Juifs, nous sommes Israël d'après le temps d'Assyrus. Il nous est extrêmement difficile, pratiquement impossible, sauf pour les kabbalistes, d'essayer de réaliser ce qu'était le temps des Hébreux, c'est-à-dire le temps où la révélation était immédiate, réalité expérimentale, quotidienne, le temps de la Bible, alors que nous vivons le temps d'après la révélation. Nous référons à l'événement de la révélation par une médiation intellectuelle, alors que l'hébreu n'avait pas de problème théologique. La révélation se révélait. On ne discute pas avec une révélation. Je ne sais pas si je suis dans le clair. Je veux dire que très rares sont les juifs qui sont capables d'être hébreux. Est-ce que j'entends ce qu'il y a dans le sens des mots? Chez les hébreux, il y avait déjà des juifs. Mais c'est un autre problème. C'est-à-dire, le juif, c'est quoi? C'est quelqu'un qui croit qu'il lui est possible de discuter avec le prophète. Mais l'hébreu discute avec lui. Il a fait tout, il a refusé. Lisez toute la Bible. Vous verrez qu'il n'y a aucun endroit où les Hébreux discutent avec leur prophète. Ils ne discutent pas. Ils sont pour ou contre. Ils savent très bien que quand le prophète parle, c'est le prophète qui parle. C'est ça, c'est bien fait. Il n'y a pas de trace de raisonnement théologique dans la Bible, même pas la Kohelet, même pas la Mishnah. Ça commence après, c'est quand la révélation cesse que les théologiens commencent à parler. Bon, je ne vais pas dévier sur la même problème. Mais oui, l'ampleur. Alors qu'est-ce que nous dit ici Rabat? Il nous dit, mais il se révèle, à partir du temps d'Assyrus, que les Hébreux avaient bien accepté en bonne volonté la Torah Sinaï, puisque la contrainte ayant cessé, ils continuent à la pratique. C'est bien clair? Alors ceci dit, la vraie question est, pourquoi on nous dit ce contraire? Voilà. Donc je donne encore une Rabat. C'est un peu ce que nous avons dans la mentalité culturelle juive contemporaine, enfin depuis longtemps. Alors, vous avez énormément de juifs qui nous disent que leur certitude, tout ce que vous voudrez, libéraux, réformés, informés, déformés, conservateurs, etc. Elle nous dit, ah, la Torah écrite, on accepte, mais la Torah orale, faudrait-vous avoir. Oui. Ce que Dieu dit, bien sûr, la Torah écrite, mais la Torah se perd, c'est ce problème. On fait comme si. Ce qui est donné sous la contrainte, pour ne pas faire autrement, c'est écrit, c'est écrit. Mais ce qui est la Torah, ça y est, c'est clair? Vous voyez à quel point ça ressemble? Voilà. La Tosfot, les Tosfot avaient déjà objecté, mais nous savons, ils ont déjà dit, nous allons accepter. Là, j'ai objecté sous Tosfot. À ce moment du récit, ils ont pas dit Venishma, ils ont dit que Naas. En fait, ça ne fait rien, on fait comme s'il n'y a pas de problème. Sinon, ça ne vaut pas un caca. Mais Tirtsu, ils ont résolu la difficulté. Ils ont résolu la difficulté. Schéma, fiché, ou roïne, échange de dollars, il ou causerie, marca. Pourquoi Dieu leur a donné sous la contrainte? Parce que peut-être qu'en voyant la difficulté qui s'attache à l'au fait de recevoir la Torah, le grand feu qui a accompagné, et jamais demain, qui a accompagné la théophanie du Sinaï, et qui est là comme paradigme du vertige de prendre devant le problème qui est posé à Israël, c'est la Torah de l'absolu qu'on va te donner, tu n'acceptes pas. Lorsqu'on réalise ce vertige-là, peut-être qu'on va se rétracter et dire. Oui, j'ai dit dans un moment d'enthousiasme sacré, j'accepte, mais c'est trop pour moi. Et je crois que, parenthèse, ça explique beaucoup de capitulation de beaucoup de juifs. C'est tellement énorme ce qu'un juif est censé être qu'il y a beaucoup de juifs qui démissionnent. Est-ce que vous comprenez c'est trop. Alors, il y a un vertige. D'une part, on peut dire c'est pas possible, mais d'autre part, c'est dangereux. Imaginez à quoi ça ressemble. Ça ressemble au fait qu'il faille prendre au sérieux que Dieu a dit à quelqu'un, c'est toi. Il va finir par le croire. Il va finir par se prendre pour Dieu lui-même. Ça donne le vertige. C'est clair? Alors c'est tellement énorme que, c'est ce que dit Postol, c'est tellement énorme que peut-être ils vont regretter.